Bonjour et bienvenue dans l'émission Joy au pays des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. À Strasbourg se trouve également l'un des barreaux les plus actifs dans le domaine de la formation continue des avocats, l'école du barreau du Grand Est, l'ERAJ. Aujourd'hui, je reçois un avocat des libertés publiques, dernièrement référendaire à la Cour européenne des droits de l'homme. Bonjour maître.
Bonjour.
Vous avez occupé le poste de référendaire à la Cour européenne des droits de l'homme. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste la fonction de référendaire ?
Bien sûr. Alors, la fonction de référendaire, c'est essentiellement une fonction qui vise à l'instruction des dossiers, des nouvelles requêtes qui arrivent à la Cour européenne des droits de l'homme. Le référendaire, il est placé dans une division nationale. Pour moi, c'était le cas pour l'équipe française, notamment. Et il va être chargé donc d'examiner le dossier, de vérifier ce qu'on appelle la recevabilité prima facie. Il est également chargé des correspondances avec les parties, notamment avec les requérants. Et le but dans tout ça, c'est de faire gagner du temps donc au juge unique qui va traiter la décision. C'est donc une fonction d'aide à la décision qui va se faire de manière concrète par la préparation de notes pour le juge. Et on voit que ce système, en fait, qui est assez efficace et productif, est un système qui est de plus en plus utilisé en Europe et notamment en France, avec des postes qui sont créés dans les tribunaux administratifs comme judiciaires. Et on a des postes notamment qui sont appelés aide à la décision ou assistant de justice. C'est substantiellement les mêmes fonctions, sauf qu'à la Cour européenne des droits de l'homme, effectivement, on aura un examen peut-être un peu plus poussé des dossiers. Alors, le référendaire, il assiste le juge de cette manière, mais il a aussi une autre casquette, je dirais, qui est importante, qui est souvent pas présentée, mais qui est importante. C'est celle d'aider le juge dans la prise de décision concernant les permanences article 39. L'article 39 du règlement de la Cour, il est peu connu, même par les avocats. Souvent, c'est une procédure qui est peu utilisée, mais qui peut être très intéressante. Une procédure qui permet à la Cour européenne de prendre des mesures urgentes dans le cas de risque imminent de dommages irréparables. Alors, dans cette définition, je dirais, textuelle, vont rentrer plusieurs contentieux. Plusieurs contentieux, au final, assez peu de situations, mais la plupart du temps, ça sera des questions relatives à l'éloignement et à l'expulsion des étrangers. Mais aussi, il y a eu récemment des saisines de la Cour en ce sens, l'arrêt des traitements sur la fin de vie. Des situations dans lesquelles des requérants viennent devant la Cour en urgence au vu du contexte. On a aussi les questions de rétention administrative des mineurs. Et juste un exemple encore plus récent, encore plus frais, c'est la saisine de plusieurs requérants contre la Belgique concernant des demandeurs d'asile à la rue. Voilà, c'est quelque chose qui a été très médiatisé et qui ouvrira sans doute la porte vers d'autres saisines de la Cour à l'avenir.
Ok, et je voulais savoir, quelles sont les raisons qui vous ont motivé à travailler dans la Cour ?
Alors, pour moi, les droits de l'homme, ça a été une réelle vocation, en fait. J'ai fait mes études à Strasbourg, je pense que c'est pas anodin, ça a dû jouer dans le parcours. Et ensuite, je suis parti à King's College à Londres, où j'ai rencontré le professeur Wintermute, qui a été vraiment mon mentor en la matière, qui m'a transmis cette vocation pour les droits de l'homme. Et peu à peu, je me suis construit un parcours très focalisé sur les droits de l'homme. J'ai été, à la fin de mon master de droits de l'homme à Strasbourg, au comité onusien en stage, c'est-à-dire comité pour les droits de l'homme, comité contre la torture. Et ensuite, j'ai fait une autre expérience à la Cour européenne des droits de l'homme. Et vraiment, voilà, j'ai décidé progressivement de non pas de me spécialiser, parce que la spécialisation, c'est, pour les avocats, c'est un terme particulier qui met un peu de temps à obtenir, mais de pratiquer le maximum dans ce domaine-là. Et c'est ça qui m'a motivé en fait à me tourner donc vers la Cour. J'y étais déjà en stage en 2018 dans le cadre de mes études d'avocat. Et ensuite, pour quelqu'un qui est passionné de droits de l'homme en Europe, c'est vrai que c'est un passage qui peut être très intéressant. Aussi au point de vue des valeurs, parce que je partage vraiment les valeurs qui sont défendues par la Cour. Mais aussi du combat, parce que je pense que c'est vraiment une prise de position, un combat qui est essentiel dans nos sociétés actuelles. On a tendance... un peu à l'oublier, mais c'est une juridiction qui a un rôle très important, très, très, très important pour notre société. Et enfin, je dirais la dernière raison, c'est parce que en tant qu'avocat, dans ma pratique d'avocat, c'est très utile parce que avant d'y aller, j'étais amené à travailler sur des requêtes devant la cour. Puis c'est le cas aussi depuis que je suis retourné au barreau. Et c'est vrai qu'avoir une connaissance interne du fonctionnement de la cour, mais aussi de la jurisprudence, de l'appréciation de la recevabilité, c'est très enrichissant pour ma carrière d'avocat.
Ok, et quelles sont les libertés ou les articles spécifiques de la Convention auxquels vous êtes attaché particulièrement ?
Alors, pour rester dans le sujet du jour, c'est vrai que je suis beaucoup intéressé par la liberté religieuse. J'ai pu travailler quand j'étais au Comité des droits de l'homme à l'ONU sur l'affaire Babylou, qui c'était l'affaire du licenciement de cette salariée qui était très intéressante. Je suis aussi intéressé par toutes les thématiques liées de discrimination, donc discrimination qu'elle soit fondée sur l'appartenance ethnique ou sur l'appartenance religieuse. Les thématiques de crimes de haine, c'est des questions qui m'intéressent réellement. J'ai aussi un attrait pour l'article 10, la liberté d'expression. Mm-hmm. Lorsque j'étais à la Cour en 2018, j'ai participé à la rédaction par le jurisconsulte du guide sur l'article 10. Ce sont des guides pratiques qui sont à destination des praticiens, avocats, juges nationaux, qui sont très utiles, et je le vois parce que moi aujourd'hui j'utilise les guides article 6, article 8, article 3, tous les guides, c'est très intéressant dans la préparation de requêtes notamment. Donc ça m'a vraiment poussé à avoir un intérêt pour cette matière. Et enfin, je dirais un article sur lequel j'aime bien travailler, c'est l'article 2, notamment sur les violences policières. Mmh. C'est des dossiers qui sont passionnants. Après voilà, ça peut être lourd sur le point du point de vue émotionnel, puisque souvent, c'est des conséquences très graves, voire le décès, puis on a à traiter avec les familles, etc. Mais c'est des dossiers qui sont très, très intéressants.
Oui, et est-ce que l'article 2, ça se recoupe avec l'article 3 ?
Oui, alors il peut y avoir des griefs qui peuvent être présentés sur l'article 2 et sur l'article 3. Mais après, on a vraiment la distinction. L'article 2 sera invocable uniquement lorsqu'on a un décès ou lorsqu'on a une situation qui peut mettre la vie en danger. Mm-hmm. L'article 3 va être plus large sur les mauvais traitements en général, comme on les appelle, traitements inhumains, dégradants ou la torture. Mais après, on a beaucoup de choses qui se recoupent, notamment sur les obligations d'enquête, les enquêtes effectives à réaliser, qui sont pour l'article 3 très inspirées de la jurisprudence sur l'article 2.
Ok. Je voulais vous parler aussi l'association Plaider les droits de l'homme. Alors, je crois que vous êtes secrétaire général adjoint. Alors, pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ?
Oui, alors, Plaider les droits de l'homme, PLDH, c'est une association qui a été créée il y a plusieurs années à Strasbourg. Enfin, pas à Strasbourg, à Fribourg, en Suisse, mais qui était entre donc, la Suisse, l'Allemagne et la France, et qui intervient principalement au soutien du Master 2 Droits de l'Homme à Strasbourg. Moi, j'ai été dans ce Master 2 en tant qu'étudiant, et c'est comme ça que j'ai connu l'association. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que cette association, elle vient en complément de la fac de droit, dans le cadre du Master 2. C'est vraiment une richesse pour ce Master 2. J'insiste parce que je connais beaucoup d'autres étudiants qui ont fait d'autres Master 2 en France. Il y a quelquefois des associations aussi qui proposent des conférences, etc. Mais là, on a une réelle plus-value avec une possibilité de rencontrer des praticiens. On a des juges de la Cour européenne, des juges de la Cour de justice de l'Union européenne qui interviennent grâce à ça, parce que c'est tout un réseau derrière qui s'emploie vraiment à permettre aux étudiants de s'intégrer professionnellement. Mais il y a aussi des activités, je dirais, plus théoriques avec la préparation d'un moot court, qui est une simulation de procès, et la préparation de diverses conférences, mais aussi de masterclass. Les masterclass, on est sur l'intervention d'un praticien qui est spécialisé dans un domaine et qui va échanger avec les étudiants. D'ailleurs, j'en profite parce que je co-organise avec Onur Andréotti, qui est ancienne juriste à la Cour, spécialiste de l'article 10. On organise un masterclass sur la liberté d'expression et la protection des journalistes. Il aura lieu le 24 janvier à Strasbourg, en salle 507 de la faculté de droit de Strasbourg. Je passe le message parce que c'est ouvert à tous. Et cette année, le sujet, c'est les procédures bâillons, les SLAPS. C'est les procédures qui visent à faire taire les journalistes.
Ah, très intéressant. Ok, donc si vous voulez bien, j'aimerais vous poser quelques questions sur le fonctionnement de la Cour. Alors, nous avons déjà évoqué dans cette émission le principe de l'admissibilité, mais pouvez-vous nous rappeler, pour nos auditeurs, pourquoi c'est si important à la Cour européenne des droits de l'homme ?
Oui, alors, effectivement, c'est une étape essentielle dans l'examen d'une requête, parce que si la requête n'est pas recevable, la Cour n'examine pas la requête au fond. Autrement dit, si votre requête ne respecte pas les conditions de recevabilité, la Cour ne regarde même pas si vos droits ont été violés. Donc il faut vraiment s'employer à présenter des requêtes qui sont conformes à ces conditions. Surtout que ce qu'il faut savoir, bon, les chiffres bougent chaque année, mais de manière générale, on peut dire plus ou moins qu'en moyenne, 9 requêtes sur 10 est rejetée au stade de l'irrecevabilité à la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, donc ce sont des conditions qui peuvent paraître assez strictes, mais on se rend compte au final que voilà, elle vise à éviter déjà un encombrement de la Cour, mais ensuite une saisine peut-être prématurée de la juridiction européenne qui n'a pas vocation à intervenir, je dirais, à la place des juridictions internes, mais qui a vocation à intervenir par après si les garanties de la Convention n'ont pas été respectées. Alors les conditions, sans rentrer dans les détails, mais les conditions classiques, c'est le délai qui est aujourd'hui de 4 mois, il faut le noter, depuis le 1er février 2022. Il est plus de 6 mois, mais de 4 mois. L'épuisement des voies de recours internes, il y a deux volets à cette condition. Tout d'abord procédural, c'est-à-dire qu'il faut avoir épuisé tous les recours en France, si on est devant l'organe judiciaire, c'est-à-dire aller jusqu'à la Cour de cassation ou devant le Conseil d'État, dans l'organe administratif. Mais il y a aussi un volet substantiel à l'épuisement des voies de recours internes qui impose d'invoquer les griefs qu'on invoque devant la Cour européenne au préalable devant les juridictions internes. Et c'est souvent ce qui pêche. Et qu'il faut avoir en tête. Ensuite, on a d'autres conditions comme la qualité de victime, le préjudice important. Mais voilà les conditions, je dirais les grandes conditions.
Ok. Alors, une fois une affaire a été jugée recevable, quel est un petit peu le cycle de vie d'un procès au sein de la Cour ?
Oui. Alors, ce qui se passe, c'est que toutes les requêtes, elles passent devant les référendaires. Et ensuite, elles sont donc examinées soit par le juge unique, soit par une formation collégiale. En général, on a une règle en interne de one in, one out, de 3 mois pour le traitement des requêtes. Donc, l'examen de la recevabilité, il se fait au plus tard entre 3 et 6 mois. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en tant qu'avocat, si vous n'obtenez pas de réponse dans les 6 premiers mois, en général, c'est bon signe, c'est-à-dire que la requête est potentiellement recevable. Elle peut encore être déclarée irrecevable après par un comité ou par une chambre, c'est possible. Mais du moins, elle n'est pas manifestement irrecevable. Ça, c'est quasiment sûr. Donc, c'est une première étape à passer. À partir de ce moment-là, si elle est recevable, il y a un renvoi qui est fait, qui est proposé par le juge à un comité, avec, encore une fois, le soutien et l'appui du référendaire qui l'aide à l'instruction du dossier. Et elle peut être renvoyée, cette requête, devant un comité ou une chambre, ce qu'on appelle une section en interne. Et c'est l'examen de ces requêtes devant ces formations qui sont collégiales vont conduire à un nouvel examen de la recevabilité et du fond. Donc voilà, ce que je veux souligner, c'est qu'on peut avoir une décision d'irrecevabilité à la clé. Mais c'est bon signe puisque, en principe, lorsqu'elle est renvoyée vers une formation collégiale, une requête voilà, n'est pas manifestement irrecevable. À partir du moment où la formation de jugement est saisie, on peut avoir, mais encore une fois, je dis peu parce qu'il est possible qu'on n'ait pas de communication, mais si la requête le mérite, on aura une communication au gouvernement. Le gouvernement sera donc invité à présenter ses observations et on aura un échange classique d'écriture avec le requérant qui sera invité également à se prononcer sur ce qu'on appelle la satisfaction équitable, qui est l'article 41, qui vise à proposer donc une réparation à la violation qui est alléguée. Il faut savoir que dans le cadre des procédures devant la Cour, il y a très peu d'audiences. C'est une procédure principalement écrite. Il y a de manière automatique et systématique des audiences devant la Grande Chambre. Devant les chambres, c'est-à-dire devant les sections, c'est assez rare, mais c'est de plus en plus utilisé. On en a eu une, moi, quand j'étais à la Cour en 2019, je crois, dans l'arrêt AM. Et là, très récemment, dans Pagerie contre France, cette année, voilà, on a une volonté de la Cour d'organiser plus d'audiences de chambre.
Ok, alors justement, j'avais une question par rapport à la composition des chambres. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça marche ?
Oui, bien sûr. Alors, comme je le disais, il y a 4 formations de jugement à la Cour. Tout d'abord, le juge unique. Quand on parle de juge unique, il faut savoir que les 47 États membres, aujourd'hui 46, ont un juge et chaque juge va traiter du juge unique. Donc des affaires qui ne sont pas celles de son pays, mais il va traiter dans le cadre de ces affaires l'irrecevabilité manifeste. C'est ce que j'indiquais tout à l'heure. Ça, c'est la première formation de jugement. La deuxième, c'est le comité. Le comité, c'est trois juges. Donc c'est une formation qui est collégiale, mais ce n'est pas la plus solennelle. Ensuite, on a les sections, donc les chambres, qui sont au nombre de cinq. Il y a cinq sections à la cour. Elles ne sont pas divisées en fonction des matières qui sont traitées. C'est-à-dire que toutes les sections traitent toutes les allégations de violation de tous les articles. Et on a sept juges par section, avec un président de section qui est chargé donc de présider la formation de jugement. Après les sections et ce qu'on peut appeler aussi les chambres, on a la grande chambre. La grande chambre, c'est une formation collégiale aussi, la plus solennelle de la cour. Elle est composée de 17 juges et on a une rotation interne. Les 46 juges de la cour vont tôt ou tard siéger dans une formation de grande chambre. C'est une rotation qui est faite de manière équitable. Alors comment est-ce qu'elle est saisie, la grande chambre? Soit directement, lorsque l'affaire est envoyée en chambre, la chambre peut se dessaisir au profit de la grande chambre. Compte tenu de la nouveauté des questions posées par la requête, de la sensibilité de l'affaire, ou bien tout simplement du mérite du dossier. Ou bien, elle peut être saisie, la grande chambre, à l'issue d'une décision, d'un arrêt pris par la chambre. On a donc une possibilité de second examen, quelque sorte d'appel devant la grande chambre après une décision de chambre.
Ok. Alors, vous avez évoqué les juges.
Oui.
Je voulais savoir quel est le mode de nomination de ces juges et est-ce que on peut avoir confiance?
Oui, alors effectivement, je pense qu'on peut avoir confiance parce que on reste dans un état de droit où le pouvoir judiciaire est entouré de certaines garanties qui permettent quand même de garder confiance. Après, il y a toujours des systèmes qui sont perfectibles, ça c'est sûr. Pour le cas des juges qui sont nominés devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'est l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui en est chargée. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, c'est l'équivalent de l'organe législatif du Conseil de l'Europe, comme le Sénat ou le Parlement en France, par exemple. Et cet organe-là, il comprend une représentation de tous les États membres. Le processus débute par la proposition d'une liste de trois juges par l'État membre en question. Donc, si c'est par exemple la France qui doit proposer des juges, elle va d'abord proposer une liste de trois juges à l'Assemblée parlementaire. Puis ensuite, on a une élection parmi ces trois juges. Il y a un garde-fou, je dirais, c'est que l'Assemblée parlementaire, elle peut rejeter des listes. Il n'y a pas de limite sur ce rejet. Bon, après, je dirais, il y a aussi les considérations diplomatiques, pratiques, qui vont faire que, au bout de plusieurs années, peut-être que, effectivement, on aura une certaine limite. Mais on a des exemples contre certains États où on a des présentations de listes de juges qui ne sont pas, intéressantes en termes d'impartialité, de parcours, de compétences, et des rejets qui sont successivement pris par l'Assemblée parlementaire, ce qui oblige l'État à chaque fois à représenter trois juges. Et donc, ce qui garantit un peu en quelque sorte cette impartialité. Après, le problème, il reste qu'effectivement, ces listes, elles sont proposées par les États.
Ok. Et est-ce que les juges sont issus plutôt des facultés de droit ou plutôt ils sont déjà juges dans leur pays d'origine?
Ça dépend vraiment de la pratique. Il n'y a pas d'obligation au niveau du Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme. Ça dépendra vraiment des exigences étatiques de l'État membre en question. Alors, dans beaucoup d'États, ça sera des juges, effectivement, qui sont issus de cours suprêmes, c'est-à-dire de cours de cassation, conseil d'État ou autres cours suprêmes. Dans d'autres pays, il y a des académiques, des avocats. Je sais qu'en France, la pratique est... c'est pas vraiment quelque chose de gravé dans le marbre, mais tout le monde est au courant. On a une alternance entre un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat du Conseil d'État. Là, on a Mathias Guillaumard en ce moment qui est issu du Conseil d'État. Avant, on avait André Potoski qui était conseiller à la Cour de cassation pendant plusieurs années. Donc on a une sorte d'alternance, mais en France, je pense que seul un magistrat est envisageable à ce poste, un académicien, enfin un universitaire ou un avocat, en l'état actuel, ça ne serait pas possible.
Non, et c'est peut-être parce que le système juridique en France et le droit civil, où on a une formation formelle des magistrats, alors que dans le common law, c'est plutôt des avocats qui accèdent au poste de juge, voire des académiques, comme vous avez dit. D'ailleurs, je crois que le président de la Cour actuelle, c'est un professeur, si je me
trompe
pas.
Oui, si je me trompe pas. Actuellement, c'est Shifra O'Leary qui a été élue. Je crois effectivement qu'elle est, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle est issue du monde universitaire.
Ouais, plutôt prof de droit,
effectivement. Et comme vous le dites, on le voit dans... Pour les pays du common law, il y a beaucoup plus de facilité à élire des personnes qui sont issues du monde universitaire, du monde académique, effectivement.
Est-ce que vous pensez, pour juger, il faut être passé par la case avocat ? Vous pensez que ça aide ?
Alors, je ne sais pas s'il faut être passé par la case avocat. Moi, je pense qu'il faut être passé par la case juge. Alors après, tout dépend de comment on y arrive. Effectivement, en France... En général, même s'il y a des passerelles, on ne devient pas juge en étant avocat. Dans d'autres pays, il faut d'abord être avocat, puis être juge, notamment dans le common law, comme vous le disiez. Mais je pense qu'il faut avoir, jugé des affaires. Voilà. Donc, tôt ou tard, je pense même qu'un avocat qui a fait avocat toute sa vie, sans jamais être juge, je ne suis pas certain qu'il ait toutes les compétences. Après, ça dépendra vraiment des profils. Je pense qu'il peut y avoir des expériences plutôt variées. Et le bon exemple, c'est qu'à la Cour européenne, on a vraiment des profils diversifiés, je dirais.
D'accord, ok. Et les jugements eux-mêmes, la façon dont ils sont rédigés, est-ce que vous voyez une différence avec, par exemple, un jugement de la Cour de cassation, c'est tout petit en général ?
Oui.
Qu'est-ce qui explique cette différence d'approche ?
Alors, la différence d'approche, elle résulte, je pense, des exigences qui sont imposées par la jurisprudence elle-même aux juridictions internes. C'est-à-dire que la Cour européenne, pour s'assurer du contrôle de conventionnalité, elle demande aux juridictions internes de bien développer leurs motivations. Et c'est pour ça qu'elle s'impose à elle-même, je dirais, ce qu'elle impose aux autres. Alors, effectivement, c'est beaucoup plus long que des décisions de la Cour de cassation ou du Conseil d'État, quoique récemment, on a quand même eu une évolution, notamment à la Cour de cassation, de plus en plus, avec une simplification, la disparition des attendus, des choses qui vont vers, je pense, cette influence notamment européenne, mais pas que, d'un accès plus simple à la justice et aux décisions judiciaires. Mais on reste sur des décisions, comme vous le dites, sensiblement plus longues. Et il y a même, on commence d'ailleurs à avoir un peu le phénomène à l'inverse avec des personnes qui se demandent si c'est pas trop long, justement, les arrêts de la Cour. Je crois qu'il y a des arrêts de 300 ou 400 pages qui sont sortis en 2022. Donc, effectivement, peut-être un juste milieu à trouver à ce niveau-là.
Oui, tout à fait. Mais je pense qu'ils sont un petit peu inspirés des jugements anglo-saxons où, justement, c'est non seulement les juges en faveur, mais les juges dissenting judges, juges qui sont contre, qui vont exprimer un point de vue qui peut représenter, le cas échéant, la prochaine décision. Donc, d'où l'importance d'élire les juges qui sont les jugements pour et ceux qui sont contre.
Exactement, exactement. Et c'est quelque chose qui est totalement contre nature pour le système français, contre nature, mais qui commence à être dans les débats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, même si je ne pense pas que ça arrivera de sitôt. Mais il y a des discussions qui sont faites, effectivement, parce qu'on en voit les bénéfices, notamment pour les arrêts de la Cour européenne, qui permettent, dans le cas des opinions dissidentes, de ressentir un peu les tendances et les possibles évolutions de la jurisprudence, effectivement.
Ok, Maître Abraham Partouche, merci beaucoup d'être passé.
Merci pour l'invitation.
Nous éclairer, c'était très intéressant.
Merci pour l'échange.